Donc bonne continuation de ces utopiales. Et je suis évidemment absolument ravi de vous voir aussi nombreux parmi nous. Alors on continue notre programmation à la fois littéraire, scientifique, artistique, avec donc une nouvelle table ronde dont la responsabilité m'est choix, parce que j'en suis absolument ému et ravi. Sur la fin du monde, parce que, bien évidemment, c'est pas parce que le festival traite et a choisi le thème origine qu'on ne va pas parler de fin du monde. Il y a plusieurs tables rondes qui en parleront. Il y en a une un peu plus tard dans la journée sur les apocalypses nucléaires. Et puis, il y aura une autre table ronde dimanche aussi, toujours sur la fin du monde, est-elle pour le mois prochain. Puisqu'il va y avoir des intervenants en anglais, je recommande à tous ceux qui voudraient en profiter, il y a les éléments de traduction et les casques, donc n'hésitez pas pendant que je présente la table ronde à vous servir auprès des traducteurs et de l'équipe qui est là pour votre confort. Je précise aussi, avant de commencer, en attendant que tout le monde puisse s'équiper, qu'il y aura cet après-midi la diffusion du documentaire Cinéma Apocalypse de Philippe Gage à 13h45 en salle Solaris. Cinéma Apocalypse, donc un documentaire tout à fait inédit et passionnant, à 52 minutes sur les fins du monde précisément. Donc à 13h45 en salle Solaris avec des intervenants comme Alain Musset par exemple ou notre nouveau président des Utopiales, Roland Lehoucq, qui sont des acteurs de ce documentaire. Bien, alors je vais d'abord présenter évidemment mes intervenants, même si certains l'ont sans doute déjà été depuis le début de ces utopiales. Alors tout à fait au bout à ma gauche, nous avons Alain Musset. Alors Alain Musset est géographe de formation, il est directeur aussi à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis Alain est un grand connaisseur, un érudit et passionné de la science-fiction. Il intervient souvent sur les sujets de la science-fiction. Il était d'ailleurs l'un des acteurs et l'un des partenaires de l'exposition à la Cité des Sciences à Paris en 2010. Et notamment, il s'intéresse beaucoup sur son blog, je suis allé voir aussi, aux questions de la fin du monde. Donc évidemment, nous parlerons avec lui aussi de fin du monde. À ses côtés, l'incontournable, vous le savez maintenant, vous l'avez déjà rencontré ici, c'est un habitué, Norman Spinrad. Je suis très fier de l'avoir de nouveau avec moi en table ronde, on s'est déjà vu depuis le début du festival. Auteur évidemment incontournable et en particulier sur la question de la fin du monde pour l'un de ses derniers romans, Il est parmi nous, Is Among Us, que vous trouverez bien entendu à la librairie. Il nous dira quelle est sa position pour savoir si la fin du monde est un élément qui peut être appréhendé de manière scientifique ou pas. À ses côtés, et je suis extrêmement fier de l'avoir cette année, c'est une première pour les Utopiales, Nancy Kress. Je tenais beaucoup à avoir Nancy et je suis vraiment, vraiment très, très heureux qu'elle soit là. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Un auteur qui est un auteur de hard science, comme les anglo-saxons le définissent habituellement, c'est-à-dire un auteur qui place au cœur de son processus narratif la méthode et la connaissance scientifique. Vous enlevez la science d'un livre de Nancy Kress, il ne peut plus avoir de sens. La science est profondément intriquée dans son travail. Et en particulier pour l'un de ses derniers romans, qui est une série un ensemble de novellas, il me semble, After the Fall, During the Fall et Before the Fall, qui n'est pas encore traduit en France, qui le sera bientôt, j'espère, et qui traite précisément bien de la fin du monde, et d'une manière tout à fait, on va le voir, pertinente. Et immédiatement à mes côtés, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, je ne sais pas d'ailleurs de qui il s'agit en réalité, mais c'est au contraire, bien sûr, je rigole, un ami très précieux et quelqu'un que j'aime beaucoup, on a travaillé ensemble déjà sur bien des sujets, c'est Éric Pichol, il est physicien au CNRS, c'est aussi quelqu'un qui fait énormément en France pour la diffusion de la science-fiction en termes d'outils pédagogiques et d'outils universitaires. Il est l'initiateur des journées interdisciplinaires de PERESC, Science et Fiction, et PERESC dans l'arrière-pays niçois, qui réunit chaque année depuis 7 ans maintenant des physiciens, des scientifiques, des chercheurs en linguistique et des auteurs pour identifier les manières dont la science-fiction peut devenir un outil pour les sciences exactes, mais aussi les sciences sociales. Et donc je suis très fier de l'avoir à mes côtés également, pour savoir si oui ou non la fin du monde est une idée scientifique. Voilà, cette présentation étant terminée, et bien évidemment, j'ai dû me limiter dans mes compliments parce que je suis vraiment très très heureux de les avoir tous. Je vais demander à la technique de me montrer une première image que j'ai préparée. C'est l'extrait du texte, extrait de texte La fin du monde. Extrait de texte La fin du monde. Merci. Alors, je vais tout simplement vous lire et puis ce sera un petit quiz pour le public. Vous l'avez aussi, voilà, sous les yeux. Mais l'attente, l'incertitude est souvent plus terrible que la catastrophe même. Un coup brutal nous frappe une bonne fois et nous assomme plus ou moins. On se réveille, on en prend son parti, on se remet et l'on continue à vivre. Ici, c'était l'inconnu, l'approche d'un événement inévitable, mystérieux, extraterrestre et formidable. On devait mourir, sûrement, mais comment ? Choc, écrasement, chaleur incendiaire, flamboiement du globe, empoisonnement de l'atmosphère, étouffement des poumons, quel supplice attendaient les hommes ? Menace plus horripilante que la mort elle-même, notre âme ne peut souffrir que jusqu'à une certaine limite. Craindre sans cesse, se demander chaque soir ce qui nous attend pour le lendemain, c'est subir 1000 morts. Et la peur qui fige le sang dans les artères et qui anéantit les âmes, la peur spectre invisible, hantait toutes les pensées, frissonnantes et chancelantes. Allez, on commence par un petit quiz. C'est de qui et ça date à peu près de quand ? Qui a une idée dans le public ? Allez, n'hésitez pas, hein, même une proposition fausse, ce sera aussi une manière de commencer à réfléchir ensemble. Non ? Alors, je me tourne vers mes intervenants, les spécialistes. De qui s'agirait-il ? No idea?
Well, I have a way to start this. And I didn't write this. It was a little story written by Ray Bradbury. And it's just published in a newspaper somewhere, as I read it a long time ago. I don't even know if it's ever been reprinted or translated. Mexico. The United States has been bombed by the then Soviet Union, and all the American tourists are fleeing back across the border from Mexico into the United States. And car stops at a Mexican petrol station on the road to the States. And two Mexican guys are pumping the gas, and they ask the fleeing Americans who were getting the gas, what's going on? What's going on? And the Americans say, haven't you heard? They've nuked the United States. It's the end of the world. And the tourists go up the road. And one Mexican looks at the other Mexican and he says, what do they mean the world? So that's the ultimate question here. What do they mean the world? Whose world? And just this planet? Or the end of the solar system? Or the end of this particular galaxy, or the end of this particular universe, either in the heat death or the big collapse, whichever ends up happening, which seems to be these days the heat death, or the end of the matrix in which all these bubble universes exist, or the end of what? Yeah. One thing is certain. This universe has had a beginning. This galaxy has had a beginning. This solar system has had a beginning. This planet has had a beginning. So it will have an end. It has to. So scientifically speaking, the end of the world really, the world, however you define the world, is certainly a scientific question.
Yeah, I think it's also important to make the distinction between the end of the human world and the end of the world. Even if through biological warfare or nuclear warfare or just an asteroid hitting the Earth or something like that, we wipe out every human civilization, that doesn't necessarily mean the end of the world. There will still be things that will survive. I'm betting on cockroaches and rats. And eventually, over enough time, there may be enough evolution that you end up with another species dominating the world. After all, dinosaurs were before us, and now we're here. So I think it's important, in agreeing with Norman, to define what you mean by the end of what world and whose world.
Alors, je remercie les deux premiers intervenants. Thank you very much, Norman and Nancy, because it's exactly what I need. Ce que je voulais enclencher chez vous, c'est précisément la première question scientifique, finalement, c'est quel est l'objet? Quel est l'objet de l'étude et quel est l'objet de la question? Qu'est-ce que la fin du monde? Et qu'est-ce que le monde d'abord? Quel monde vise-t-on? Et que signifie la fin? Donc, ils ont parfaitement enclenché le débat. L'extrait que j'avais choisi, c'était tout simplement La fin du monde de Camille Flammarion. Un roman de 1894, écrit par un astronome. Voilà. Donc c'était l'idée aussi de voir comment les scientifiques eux-mêmes, bien sûr, peuvent penser la fin du monde. Ici, il s'agit d'une fin du monde physique au sens tout à fait concret du terme. Alors je vais me tourner maintenant vers peut-être d'abord Alain et puis ensuite Eric. Quelle est votre conception maintenant de la fin du monde? Est-ce qu'on peut peut-être scientifiquement identifier d'abord les termes, la fin et le monde?
Alors, il y a plusieurs façons. Je crois que Norman Spindrad l'a dit, effectivement, savoir de qui il s'agit. Même pas de quoi il s'agit, mais de qui il s'agit. Des fins du monde, il y en a déjà eu. On le sait. Il y a 65 millions d'années, effectivement, les dinosaures ont disparu. Ils ont eu le malheur de rencontrer une comète. Alors, Lars von Thiers va encore plus loin, puisque là, c'est carrément toute notre planète qui va disparaître, fracassée par Mélancolia. Donc ça, c'est encore plus dur. Mais ce qu'il faut voir, effectivement, l'idée que moi, je retiens, et qui me paraît importante, parce que je suis géographe. Moi, je ne travaille pas dans les sciences dures. Je ne veux pas dire que la géographie est une science molle, parce que comme vous savez, je trouve ça absolument scandaleux. Nous, on a l'habitude de dire qu'il y a les sciences sociales et peut-être les sciences asociales, mais bon, pas complètement non plus. On s'entend bien. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment peut disparaître une civilisation. C'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai travaillé sur l'idée de fin du monde, parce que des civilisations qui ont disparu, j'en connais et nous les connaissons. Le choc des civilisations, ça existe. Je tiens quand même à rappeler une chose pour ceux qui ne le savent pas, mais quand les Espagnols découvrent l'Amérique, hein, c'est-à-dire le continent américain actuel, ils découvrent des civilisations qui vont anéantir complètement. Et ils ne les anéantissent pas uniquement sur le plan spirituel, mais aussi physiquement. Les ethno-historiens calculent qu'à l'arrivée des Espagnols en Mésoamérique, c'est-à-dire Mexique et une grosse partie de l'Amérique centrale, il y avait à peu près 20 millions d'habitants. À la fin du XVIe siècle, il reste 1 million d'habitants. Donc, vous imaginez le génocide que ça représente. Jamais il n'y a eu, à l'échelle de la planète, un tel génocide. Ça, c'est une fin du monde. Et c'est assez intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, on récupère les Mayas pour expliquer, dire qu'il va y avoir la fin du monde. Ils l'ont déjà eu, hein, donc, et c'est nous qui leur avons apporté. Et je voudrais juste donner un dernier exemple aussi de ces fins du monde. Donc, encore une fois, dans une perspective géographique, anthropologique, je ne sais pas si vous avez lu le roman de George Stewart, Earth Abides, qui est un très très beau roman, donc, qui est de 1949. Et c'est pas rien qu'il soit de 1949. Hein, il y a eu la bombe atomique. Il y a eu 1949, c'est aussi l'année où les soviétiques se dotent de la bombe atomique aussi. Donc c'est vraiment, il annonce la fin du monde et le héros s'appelle Ish. Et pourquoi s'appelle-t-il Ish? Parce que en 1911, on a découvert en Californie un homme d'une ethnie. Hein, qui était en voie de disparition. Il était le seul survivant de son ethnie, il s'appelait Ishi, hein, et il est mort dans les bras des anthropologues qui l'ont étudié jusqu'au bout en disant « mais ça ressemble à quoi un survivant de l'apocalypse ?» Hein, et c'était le dernier survivant de cette rencontre entre deux mondes, c'est-à-dire entre l'Europe et l'Amérique, et ce n'est pas pour rien si George Stewart a appelé son héros Ish. C'est un hommage à ce dernier homme d'une civilisation qui a disparu.
Alors, merci Alain. C'est vrai que positionner la question de la fin du monde sur la fin des civilisations, moi, ça me parle tout à fait évidemment. Et à ce moment-là, on s'oriente plutôt vers des sciences sociales, c'est-à-dire l'analyse des éléments qui amènent à une fin de civilisation. Ça peut être des éléments externes ou internes. On va sans doute y revenir et j'ai d'autres illustrations pour vous tout à l'heure. Avant, je donne la parole au point de vue du physicien et aussi de l'acteur du milieu de la science-fiction qu'il connaît bien. Qu'est-ce qu'une fin du monde pour toi, Eric?
Ma foi, je suis tenté de te répondre qu'en tant que physicien, c'est pour le coup, ce n'est rien pour moi. Ce n'est pas du tout une question scientifique. C'est une question importante, évidemment. C'est une question qui peut hanter aussi bien la littérature que tout individu. Au pire, on est son propre monde. Mais c'est une question importante en termes métaphysiques, c'est une question importante en termes religieux, assurément, c'est une question importante de tout un tas de points de vue. Mais au risque de la caricature, la science moderne depuis Descartes s'est construite précisément en cherchant à se débarrasser de ce genre de questions. La science, l'acte fondateur de la science, c'est de reconnaître qu'il y a des questions auxquelles la science n'a pas de répondre et de se concentrer sur celles sur lesquelles on peut avoir un certain nombre de réponses. Donc l'acte de naissance de la science serait typiquement de refuser. Alors Descartes rejetait les questions plutôt théologiques, mais la téléologie, la question de la fin du monde en religion, fait partie des choses que Descartes cherchait à éviter. Ce que fait le scientifique, c'est d'abord de constater que le monde est infiniment compliqué. Le monde, c'est bien sûr de la physique plus ou moins élémentaire, c'est de la physique moins élémentaire, c'est effectivement des sciences sociales parce qu'il y a des individus, c'est de la géographie parce qu'il y a, il y a des environnements à toutes les échelles. Il y a, simplement d'écrire cette table, ça peut passer de la description de l'atome, des innombrables atomes qui la composent, à la description de la bouteille d'eau et probablement de tout le complexe industriel qu'il y a derrière qui a permis la création de cette bouteille d'eau et de la technologie. Qui a permis simplement qui me permet de reconnaître une bouteille d'eau. Ça suppose une culture très profonde. Enfin, c'est le moindre problème considéré d'un point de vue scientifique est un problème infiniment complexe. Et le premier choix du scientifique, c'est de dire je vais me concentrer sur tel ou tel aspect particulier du problème. C'est-à-dire que je vais simplifier à outrance le problème. Je vais choisir de construire une fiction dans laquelle le monde est simple. Et dans lequel le monde est exclusivement physique ou exclusivement géographique ou exclusivement ceci ou cela. Et même exclusivement physique, ça ne suffit pas. Je vais faire de la physique atomique ou je vais faire de l'optique. En fait, on se spécialise progressivement. On construit cette fiction. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que le physicien, le scientifique en général, travaille fondamentalement sur des fictions. C'est-à-dire sur des mondes imaginaires qui sont simples. Ce qui n'est jamais le cas de la réalité. Et à partir de là, on peut étudier les propriétés des fictions, on peut construire des modèles de plus en plus précis, et le but du jeu, évidemment, est d'avoir des fictions le plus opératoires possible qui nous permettent de rendre compte et de revenir à la réalité et de dire des choses sur la réalité. Mais le devenir de ces modèles va dépendre du choix de modèle qu'on fait. Et on retombe sur la question que posait Norman tout à l'heure. Il faut d'abord savoir de quoi on parle, de quel monde on parle, de quel monde on a choisi de parler, et non seulement disciplinairement, mais de savoir en permanence où l'on est, si on parle du monde réel dans toute sa complexité, ou d'un modèle particulier. Effectivement, à partir du moment où on a créé un modèle sursimplifié, on peut créer des modèles qui vont vers la destruction totale ou des modèles qui sont stables. On peut jouer autant qu'on veut.
D'accord. Donc pour le physicien qui est Eric, il faut d'abord se rendre compte que lorsqu'on parle de fin du monde, on parle d'une représentation antérieure à la réflexion sur la fin du monde et qui conditionne évidemment la vision qu'on va en avoir. Est-ce que la technique peut montrer le tableau de Hubert Robert, le Louvre en ruine et la tempête, s'il vous plaît? Merci. Voilà Hubert Robert et la tempête. Est-ce qu'il est... voilà, très bien. Alors, c'est reparti. Voilà, merci, laissez sur cette image-là. Voilà, vous avez un tableau ici d'un peintre du XVIIIe siècle, Hubert Robert, Le Louvre en ruine, qui s'appelle. Et c'est une représentation donc à purement artistique, hein, bien sûr, au XVIIIe siècle, quelques années, une petite vingtaine d'années avant la Révolution française, avant le basculement que va représenter la Révolution française. Et c'est une expression artistique qui montre que la fin du monde est sensible aussi par l'art. Alors ce qui m'intéresse ici, dans ce festival de science-fiction, c'est de voir comment la science-fiction elle-même, confluant de l'art et de la science, peut peut-être penser la fin du monde, à défaut d'une manière strictement scientifique, d'une manière peut-être au moins rationnelle. Et j'ai envie je vois Nancy qui lève déjà son micro, de faire intervenir Nancy Kress, dont l'un des derniers romans est précisément sur ce sujet-là.
Well, I'm glad you mentioned science fiction, because I'm not a physicist, so I tend to assume the world is actually here. And therefore, if the world is actually here, we can end it. And science fiction writers, I'm sorry to say, actually like the idea of the end of the world because it presents a lot of opportunities for fiction. If you're going to destroy the entire world, you have built-in conflict. And conflict is what makes stories go. Conflict is necessary. I know Norman has written an end of the world story. I've written a couple of end of the world stories, and so have a great many others. And they range over the whole scale that Norman just mentioned. In Childhood's End, Arthur C. Clarke destroys the entire planet. The planet Earth is destroyed. And humans have already left it in a sort of bizarre way, but it's destroyed. Greg Bear did the same thing with Forge of God, right? He destroys the entire planet. Other science fiction writers have gone down a step, and we've only destroyed the human population on it. I've done that twice, personally. And I have to say that the problem with doing this in science fiction is that the books can be a little depressing, as you can well imagine. I wrote a book called Nothing Human, which I think is one of my better books, but it was turned down by my publisher, Tor, because my editor said, "You destroyed the entire human race. I can't publish this." And I said, "Well, Arthur Clarke did it, and I left the planet." But he said, "No, doesn't matter." What I did do, however, is that on the verge of extinction, we genetically engineer our own descendants who can describe, just can survive in the environment that we've managed to alter to the point where we can no longer do it. And I think that that's important to say, because I think it does bring a semblance of hope. Even if we wipe out a specific civilization, even if the Louvre ends up in ruins, even if France ends up vaporized, even if the United States end up in a nuclear war, even if biological warfare wipes out 99.9% of us, we're persistent. I think we will find a way to survive here or out in space in some way or in some other form or in some other possibility, or bequeath our heritage to some other species. And unless we actually are talking about entropy and heat death of the universe, I think there will be some kind of survival. It just may not be anything that we recognize.
Or want. Well, you know, there is a science fictional physical informational theory about this, which is promulgated and probably invented by Verna Vinge, which is this idea of the singularity, in which we create an artificial intelligence, whatever that means. By the way, I think they should concentrate first on creating artificial stupidity, on which we are more of an expert. So that we create an artificial intelligence that's more intelligent, whatever that means, than we are, that can produce its own generation of artificial intelligence, which produces another generation, and so forth, and the whole thing goes asymptotic until we are superseded by artificial intelligences that are so far beyond us that somehow they transcend physical reality, and in some cases they pull us along with them, usually unknowingly, as kind of pets or aquarium creatures into this whatever it is, in other words, what we would call a virtual reality, whatever that really means, and we don't even know that we're living in bits and bytes living in a simulation. We could be doing that right now. I'm not saying that I believe this is correct. In fact, I've demolished it a few times. But this is an example, a very good example, of science fiction. And a form, after all, of a sort of science, a sort of physics, the science of information science, I guess, where what is destroyed is not just the world, is not the universe, but somehow reality itself, and you get to a situation where it's all virtual, all the way down. And some people could and maybe have argued that that's the universe we're already in and always have been. I'm not saying I believe that either.
So Norman says you may actually be existing as bits and bytes in the mind of a computer, and Eric says you may be existing only as a model that isn't there at all. Aren't you glad that you came to this roundtable?
I am not saying this. Werner Vinge is saying this.
Alors, justement, je suis content que Norman cite Werner Vinge parce que je pense que la singularité fait totalement partie du sujet de cette table ronde où on essaye toujours d'imaginer ce qu'est véritablement une fin du monde et comment elle peut transparaître dans la science et dans la science-fiction. On a parlé aussi de l'infosphère et je sais qu'Alain Musset s'intéresse aussi aux infocalypses, en fait. Donc on va en parler. Peut-être Eric, avant, vous voulez rebondir sur la singularité.
Pas tant sur la singularité, mais je voudrais noter que les deux des pères fondateurs de la théorie de l'information, en quelque sorte répondu par anticipation à Norman, il y a d'une part une très jolie petite nouvelle de Norbert Wiener, qui est l'une des très grandes figures de la cybernétique et de la théorie de l'information, dont on sait moins qu'il a écrit quelques nouvelles de science-fiction. Et en particulier, l'une des nouvelles de science-fiction de Wiener, dont le titre m'échappe pour l'instant, est une nouvelle sur la création de stupidité artificielle. C'est l'histoire d'un neurochirurgien qui est enlevé par une bande de gangsters à Chicago, dont le chef est un génie du mal, un chef de bande, qui a une tumeur quelconque, qui fait du chantage au chirurgien pour le forcer à le soigner. Et la seule solution que le chirurgien trouve pour sauver sa peau est effectivement d'opérer le gangster, que l'opération réussisse et de le garder en vie, mais de le rendre stupide. De telle sorte que le gangster, qui est un génie du crime, devient un très mauvais criminel, qui se fait arrêter par la police très rapidement, et à faire close par des moyens traditionnels, par la police. Une réponse plus physicienne, plus théoricienne, est peut-être celle de Léon Brillouin, qui est aussi l'un des pères fondateurs français de la théorie de l'information, un immense physicien français de l'entre-deux-guerres. Brillouin est celui qui a posé l'équivalence entre l'information et l'entropie, donc fait le lien entre la théorie de l'information et la thermodynamique. La formulation de Léon Brillouin sur le second principe de la thermodynamique, c'est de le poser très joliment comme le principe de mort par enfermement. Si vous prenez un système fermé, que vous abandonnez un système à lui-même, quel qu'il soit, de toute façon, il finira par dégénérer. Et le second principe de la thermodynamique vous dit que, à la fin, vous n'aurez vraiment plus grand-chose d'intéressant et que tout le monde sera mort. L'insistance de Brillouin est sur le système fermé. Ce n'est pas vrai d'un système ouvert, et en particulier, ce n'est pas vrai d'un système dans lequel il y a quelque chose qui peut créer le contraire de l'entropie, c'est-à-dire de la négentropie. Un système qui peut générer son propre remède à l'entropie est un système qui a l'espoir de ne pas complètement mourir. Et pour Brillouin, il y a effectivement un système qui génère de la négentropie, c'est l'imagination créatrice. Donc, fondamentalement, on connaît au moins un système qui défie la seconde loi de la thermodynamique, c'est l'homme lui-même, c'est l'imagination humaine.
Très bien, merci de cette intervention particulière, en plus remet sur l'imagination. Alors, pour embrayer, j'ai encore une image. Est-ce qu'on peut mettre l'image de Cory Doctorow, s'il vous plaît, qui est un extrait de son blog, en anglais, voilà. Alors, vous avez ici une citation de Cory Doctorow sur la régulation hystérique, vous voyez. « Make recourse to the fourth horseman of infocalypse ». Alors, je vais me tourner vers Alain Musset, qui a parlé aussi d'infocalypse. Qu'est-ce que c'est, ça, les quatre cavaliers de l'infocalypse?
Alors, il faut revenir aux origines. Bon, pas les quatre cavaliers de l'Apocalypse, je pense que tout le monde les connaît. Je suis pas certain que tout le monde ait réellement lu in extenso la Bible, mais enfin quand même, bon, l'Apocalypse de Saint Jean. L'infocalypse, c'est autre chose. Et un des premiers à en parler, et c'est justement le problème posé par la technicité de nos sociétés et par les univers virtuels. Il y a un roman de référence à ce sujet, c'est celui de Neil Stephenson, Snow Crash, qui a été traduit par le samouraï virtuel, où il y a cette division permanente entre les deux mondes, le monde réel et le monde, le metaverse, qui est le monde où les gens finalement se retrouvent. C'est-à-dire tout le monde vit replié sur soi dans la réalité, mais on se retrouve dans les mondes virtuels grâce à des avatars. Et lui, il est livreur de pizza dans la réalité, mais il est un grand samouraï dans le monde virtuel. Et ce monde virtuel réussit finalement à phagocyter le monde réel et à être plus réel que le réel. Et c'est le problème, c'est que tout en étant un lieu de rencontre, c'est-à-dire un espace public, Et l'art, là, c'est vraiment important aussi. C'est le problème qui est posé par tous les réseaux sociaux, qui sont des espaces publics complètement virtuels. Mais ces espaces publics sont aussi toujours des espaces publics très fragmentés, très segmentés, avec des riches et des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se payer des avatars superbes et les autres qui doivent se limiter à des avatars pas terribles. Et là, on voit la différence. Même dans cet espace virtuel, il y a une différence entre riches et pauvres. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut détruire cet univers et il y a une carte qui est une carte qui va infecter tout le système et qui donc va faire s'écraser au sens propre le métaverse. Et cette carte porte un nom, c'est Babel, et en dessous il y a Infocalypse. Et ce n'est pas un hasard qu'il y a le rapprochement entre les deux, c'est que Babel, c'est Babylone, donc c'est la première et c'est la dernière ville. Les deux villes étant châtiées par Dieu, d'abord Babel, c'est la dispersion des hommes, et Babylone étant dans l'Apocalypse de Jean, la ville qui est châtiée parce qu'elle synthétise tous les maux de la société. Donc on est pris là au piège de nos univers virtuels et une des fins du monde, et on le voit bien en 2000, ce qui s'est passé, tout le buzz qu'il y a eu sur le fameux bug de l'an 2000, en disant « Mon Dieu, tout va s'écrouler, il ne va plus rien avoir, ça va être horrible, plus aucun système informatique va fonctionner. » Non, on a survécu, mais on est de plus en plus dépendant et on le sera d'autant plus si la nanotechnologie se met à se mêler de nos réalités physiques aussi.
Ok, merci beaucoup. Peut-être Norman, avant que...
This gets into really deep stuff here. The question of whether anything at all can exist without a physical matrix of some kind. To what extent can you really have a virtual reality that is not dependent upon the physical reality of what? The religions say, well, God created the universe, and that's the answer. Well, which universe? All of them? The multiverse? And even if God created the multiverse, what matrix is this being existing in? And where was it before? And where will it be after? There was a book with a great title recently published, although the book itself didn't live up to the title. And the title was, Why Is There Something Instead of Nothing? And that is the ultimate question. And that is also, I think, I might argue and have sort of argued, that's the argument against things like the singularity. Where do these artificial intelligences, where are they? They may be creating virtual worlds within virtual worlds within virtual worlds, but it reminds me of some movie I saw once, or maybe it was a Frederick Brown, one of these Frederick Brown 1,000-word stories, where the computers have taken over the world, and all the scientists and politicians and generals are trying to take it back and stop or something, and then the janitor comes into the building where the computer is. And he said, oh, no problem. Why don't you just unplug this thing? And he unplugs it, and that's the end of it. Can there really be an end of the world, an end of the physical matrix in which the world or the worlds or the universes or the multiverse that we consider the base reality, can there really be something that somehow exists beyond, outside this matrix? And if so, what is this, that non-matrix matrix? You get involved, and yet, here we are.
Merci. Alors effectivement, on va très très loin dans cette réflexion. Elle se veut très ouverte. Je vais aussi donner la parole à la salle. J'aimerais encore franchir une petite étape. On a parlé de la singularité qui fait incontestablement partie du sujet. On a vu que finalement, ils vous l'ont tous dit d'une certaine manière, les mondes finissent régulièrement. Les fins du monde, on en connaît plein. Ce sont des fins du monde parfois informatiques, parfois des fins du monde civilisationnelles, parfois des fins du monde informatiques. Et il y a quand même une fin du monde physique qui a failli, ou en tout cas qui à un moment donné ou à un autre a représenté peut-être la possible fin de tous les mondes possibles, et qui était strictement physique et en même temps, comme l'a dit Norman, parfaitement lié à la vie politique, c'est-à-dire un impact physique déterminé par un choix politique. Est-ce qu'on peut montrer l'image de la lettre de Einstein à Roosevelt? Première page, s'il vous plaît. Voilà, vous avez ici la lettre de Albert Einstein au président Franklin Delano Roosevelt le 2 août 1939, où un scientifique écrit à un politique pour le prévenir que aujourd'hui la science a les moyens techniques de développer une énergie extraordinaire qui peut être utilisée dans deux directions, soit pour construire de nouvelles sociétés, de nouveaux rapports, de nouvelles potentialités, soit au contraire pour tout détruire. Alors je sais qu'il y a une table ronde plus tard dans la journée sur les apocalypses nucléaires dans la science-fiction, mais ici c'est le point de vue toujours science et science-fiction qui m'intéresse. Je me tourne vers mes intervenants. Cette bombe atomique aujourd'hui, est-ce que c'est une fin du monde complètement surannée scientifiquement, ou est-ce que pour des raisons politiques précisément elle est plus peut-être prégnante, dangereuse, envisageable que jamais?
Si je puis me permettre, effectivement, il va y avoir une autre table ronde à ce sujet, mais on peut dire un petit peu deux ou trois mots. C'est que même cette fin du monde-là avait été anticipée par la science-fiction. Wells, en 1914, publie un roman où il évoque l'utilisation déjà de la bombe atomique pour la destruction du monde. On est en 1914.
C'est The World Set Free, voilà, la destruction libératrice.
Ça a été traduit en français sous le nom de la destruction libératrice. En 1914, et évidemment, c'est une guerre entre la France et l'Allemagne. Bon, il avait déjà vu ce qui allait se passer et on n'était pas loin de la fin du monde. Donc, et puis, il y en a d'autres. Bennett, en 1937, publie un très, 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 très beau court roman qui s'intitule By the Water of Babylon, qui illustre ce qui pourrait être effectivement le monde après une guerre atomique. Et on est avant Alamogordo, on est avant Gadget et on est avant Hiroshima. Donc ça a été anticipé par la science-fiction. Alors est-ce que c'est toujours d'actualité? Les stratèges à l'heure actuelle pensent, donc, et là c'est ma partie de géopolitique.
C'est bien ça qui nous intéresse.
Voilà, il y aura un conflit réellement nucléaire entre deux grandes puissances, ça paraît peu probable. En revanche, la CIA a très peur de ce qu'on appelle des bombes sales, c'est-à-dire un petit peu d'uranium enrichi qui peut exploser dans une rue de New York, et ça ferait d'épouvantables dégâts, surtout sur le plan de la contamination de l'atmosphère. C'est-à-dire pas de grandes destructions massives, mais des trucs pourris qui, là, peuvent arriver, et la prolifération de ces matières fissiles un petit peu partout dans le monde font partie des dangers actuels de l'atome.
Well, you know, there was...
Nancy, perhaps.
Yeah, I was a child in the 1950s, and we used to have nuclear bomb drills in which we all got under our desk at school, and this was supposed to protect us in case of a nuclear attack. But at that time, none of us expected to grow up. When I was 10, when I was 12, when I was 14, I never expected that nuclear warfare would be held off as long as it has, but somehow it has. And it still, of course it could still happen. I mean, Iran right now, a very dangerous sounding nation, is trying to develop the bomb. And yes, it could happen. But I think in some ways there's a greater danger, and that's biological warfare. One of the most terrifying books I ever read was written by a Russian biologist who had defected from, his name is Ken Albeck, at least that's the name he has chosen to use in the United States. And he was involved in the Soviet biological warfare program. And his book details how there were, at that time, stockpiles of anthrax, tularemia, and smallpox, which is something that's not even supposed to exist anymore on the surface of the earth, being created and stockpiled in the old Soviet Union. It's not that hard to create a genetically altered or even a straightforward biological warfare. It's much easier than getting and refining plutonium and creating bombs. And I think that this, in many ways, represents a much larger danger than an all-out nuclear attack. Because for one thing, you can't tell where it's coming from. You take enough small detonators to release smallpox in New York, and you put them on timers, and you have enough of them so that even if some are discovered in time, they won't get all of them. There's no way you can actually say, okay, we know who did this, in the way that you can say an ICBM missile streaking towards New York, you can tell where it originated. And I think that biological warfare represents a larger danger moving us towards the end of the world right now than nuclear does.
Well, you know, there was, during this 1950s stuff, there was a book, not a science fiction novel, a book about strategy called On Nuclear War by a guy named Herman Kahn. And that's where the concept of the doomsday machine comes in. This is a nuclear weapon that is capable of destroying the biosphere of a planet. And in those days, the idea was, well, that was a time when the Russians and the Americans were competing on who could set off the biggest explosion. And finally, the Russians got to 100 megatons, and the Americans said, okay, you win. But the idea was you take a really big one, and you put a cobalt jacket on it, and you saturate the atmosphere with radioactive cobalt that sort of sterilizes the planet. Well, Kahn's idea, this was the beginning of the idea of mutual assured destruction. The idea being that if you have a weapon that is so powerful that it will destroy all life on the planet, that protects you from ever being attacked in a nuclear war. And MAD, mutual assured destruction, everybody made fun of it, not everybody, because the initials in English were MAD, mad, crazy. But over half a century later, we see it worked even without an ultimate doomsday machine. We see that it worked, that the mere capacity to destroy life on the Earth is a defensive strategy to keep yourself from being attacked. That's why I believe, for example, that the North Korean pathetic nuclear weapon program is a defensive program. Certainly the Israeli one is. Certainly the American one is. In a way, they all are. The Indians and the Pakistanis have deterred each other. The North Koreans have deterred the United States. The Israelis have deterred the Arabs. The Iranians want to deter Israel, I think. I don't think they're so stupid that they don't realize that if they attacked Israel, they'd be annihilated. Horrible as it sounds, this works.
Donc, d'une certaine manière, rendre la fin du monde possible pour qu'elle n'advienne jamais, en fait. Peut-être Eric, un commentaire encore sur... et après, on passera les questions au public.
Oui, peut-être un commentaire double. D'une part, je crois que la jeune génération actuelle est peut-être la première à se poser vraiment des questions de prévision à long terme ou de protection contre des destructions, des fins du monde possibles à très long terme. Je pense en particulier au problème de réchauffement climatique, au problème écologique. On a des inquiétudes, des inquiétudes qui sont dans une large part fondées sur ce qui pourra se passer à la fin du siècle. C'est traumatisant pour tout le monde et ce sont d'excellentes questions. Pour autant, je voudrais remarquer que c'est une grande chance, comme le faisait remarquer Nancy tout à l'heure. La plupart des générations précédentes, y compris la mienne, avaient des inquiétudes sur leur propre survie à relativement court terme. Le paysan du Moyen-Âge ne savait pas s'il allait pouvoir manger la saison suivante, parce que le caprice belliqueux du seigneur du coin pouvait déclencher une guerre locale qui ravageait les récoltes et détruisait pas le monde, détruisait son monde, sa famille, son village. Et il s'agissait de survivre au jour le jour. Nancy rappelait que dans les années 50, effectivement, on apprenait aux gamins américains à se protéger effectivement contre les bombes atomiques en se cachant sous leur table de bois, ça valait ce que ça valait. Mais l'inquiétude était là. Moi, je suis à peine plus jeune, j'ai grandi dans les années 60. Ça veut dire que quand j'étais adolescent, il y avait, c'était la présidence Giscard d'Estaing qui faisait triomphalement défiler sur les Champs-Élysées des missiles Pluton, qui étaient des missiles nucléaires qui avaient une portée de mémoire quelque chose comme 180 km. En d'autres termes, c'était des bombes atomiques dont le seul emploi possible était de tirer sur l'Allemagne. Ce qui met tout de suite une saine ambiance pour les jeunes Français. Et j'étais effectivement persuadé dans les années 70 que il était évident pour moi que l'une des deux grandes puissances allait s'effondrer, qu'il n'était pas possible que les choses continuent comme dans l'état. J'aurais pas forcément parié que c'était la Russie, et j'aurais en tout cas pas parié que ça se ferait paisiblement. Typiquement vers 83-84, après les événements de Pologne, Chelyabinsk, quand ces événements-là se sont résolus de façon brutale, mais pas dramatique, pas par une guerre. J'ai commencé à imaginer qu'effectivement on pourrait survivre à cette phase-là et que j'avais une chance de voir l'an 2000. Mais effectivement, quand j'avais 18-20 ans, j'étais à peu près persuadé de ne jamais voir l'an 2000. Je pense que la génération actuelle ne se pose plus ces questions. Je pense qu'il y a des inquiétudes à moyen et long terme. Il n'y a plus d'inquiétude pour votre survie immédiate ou pas réellement. Et une deuxième remarque très rapidement, c'est que la dialectique du glaive et du bouclier est éternelle. L'homme est ainsi fait qu'il y aura de toute façon des gens qui pousseront leurs avantages à la limite, et que de toute façon on aura toujours des dangers, on aura toujours des épées Damoclès. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la technologie utilisée, quel que soit le niveau de technologie utilisée, il y aura des gens qui chercheront à en profiter. Il y aura toujours un danger que l'épée tombe et nous tue. Mais il y a aussi, et j'espère et je sais qu'ils sont beaucoup plus nombreux, des gens qui luttent dans l'autre sens, qui luttent pour la paix, qui développe des boucliers. Alors les menaces actuelles sont incommensurables avec toutes les menaces précédentes. Une bombe atomique, Hiroshima, c'est 6 grammes de matière, on peut concevoir des armes d'une puissance jamais imaginée, et c'est de plus en plus vrai, et ça continuera. Je suis sûr que l'arsenal va continuer à se renforcer. Pour autant, le bouclier se renforce aussi. Ça suppose des outils diplomatiques nouveaux, mais des outils mathématiques et juridiques. On les développe, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, toutes les conférences internationales finissent dans la frustration, mais les choses avancent malgré tout. Ça suppose des moyens techniques, mais on les avance aussi. On a des réseaux de satellites qui détectent, qui sont capables de surveiller énormément de choses, y compris les mouvements de beaucoup de terroristes. Alors est-ce que ça suffira ou pas le jour, effectivement, ça suffira pas, ça, on le payera très cher. Mais cet équilibre-là n'est pas une nouveauté en soi. Et jusqu'à présent, le bouclier...
Tiens, ouais, merci. Nancy, peut-être encore un commentaire sur ce qu'a dit Eric, perhaps, no?
Well, yes, but this is short. I'll keep it short.
Ouais. Shortly, I
and this questions. Is a literary way of looking at it. In one sense, we all face the end of the world. Every one of us dies, and that's the end of our personal world. And although that also is a tragedy, when you said we wonder, you know, what will, if anything will kill us, yes, of course, something will kill us. Something will kill each one of us. But it's because of that literature, whether it's science fiction or otherwise, that it's art, such as in the Louvre, that it's all the rest of it, has the kind of meaning that it does, and the kind of savor, and the kind of intensity. We know that our individual worlds will end. And yet that doesn't stop us from life, and love, and pleasure, and sweetness, and art, and literature. And it shouldn't. And I think that that's important to keep in mind, that even if we can stave off the end of the world for the planet, we can't stave off our own individual end of the world, but we can make the most of what we have while we're still here.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est presque une conclusion idéale, hein, pour cette table ronde, je trouve, mais enfin, il nous reste quand même un petit moment. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous, des questions dans le public, sur tout ce qu'on a abordé ensemble, aussi bien les aspects finalement philosophiques et très idéologiques, autant que scientifiques, qui ont... Voilà. Allez-y, on vous écoute. On ne vous entend pas.
Ah, vous ne m'entendez pas, si.
Ça y est, c'est bon.
En fait, je voulais savoir si pour vous, la fin du monde la plus probable à court et à moyen long terme, c'est la fin de la civilisation occidentale telle qu'elle existait sur les 30 dernières années, dans la mesure où l'empreinte écologique, enfin l'impact sur l'environnement, est beaucoup plus fort que ce que notre planète peut tenir. Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt une crise civilisationnelle qui est la plus proche, finalement ?
Effectivement. Alors là, c'est le géographe
qui parle n'est pas l'amateur de science-fiction. Effectivement, comme vous l'avez dit, on consomme notre planète à un rythme qui est exagéré. Et on s'en est rendu compte très vite. Même dans la science-fiction, je ne sais pas si vous avez lu Brunner, notamment Le Troupeau aveugle. Lisez-le, c'est superbe. Parce que ça permet de comprendre comment une civilisation va à sa fin en fermant les yeux, justement, le troupeau aveugle. Hein, on continue. Et à la fin du roman, cette très belle phrase, il y a une grande réunion auprès dans la Maison Blanche. Et on dit, quelles sont les solutions? Tout est pollué, tout est foutu, etc. Quelles sont les solutions? Et il y a un des scientifiques qui est là et qui dit, écoutez, monsieur le président, j'ai une solution, mais je pense que vous n'allez pas vouloir l'appliquer. Et alors, bon, ben, dites toujours, eh ben voilà, on est dans les années 70, hein, il dit, il faudrait, pour que la Terre, actuellement, on signe des chèques sans provision sur l'avenir. Et ce sont nos descendants qui vont payer. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de tirer les chèques. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est supprimer de la planète les 260 millions d'habitants qui la consomment de manière complètement folle. C'est-à-dire supprimer les 260 millions d'Américains qu'il y avait à l'époque. Alors évidemment, la solution n'est pas approuvée par le président américain. Et ça se termine en disant ben, le troupeau continue à être aveugle. Et effectivement, on va vers la fin. Et effectivement... Si je puis me permettre, juste une chose, parce qu'on m'a posé la question, on dit, est-ce que la fin du monde ce sera long et douloureux, ou est-ce que ce sera bref et on ne s'en rendra pas compte? D'un certain côté, on est actuellement dans la fin du monde, mais on ne le sait pas. Hein, Norman Spinrad l'a bien dit dans Bleu comme une orange, on ne le sait pas ou on ne veut pas le savoir, hein, et ce qui est terrible, c'est que c'est exactement comme les grenouilles. Il paraît que quand on met une grenouille dans l'eau bouillante, elle sort, et que si on fait monter très légèrement l'eau petit à petit, elle s'habitue et elle meurt. Eh bien, nous sommes des grenouilles et nous sommes en train de mourir dans notre écosphère.
Voilà, vous voilà donc tous traumatisés. Est-ce que l'un des intervenants veut encore ajouter un mot?
Oui, je crois que je me sentais obligé de jouer le technophile de service en réponse. Vous parliez de civilisation occidentale. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'elle a on peut la considérer de beaucoup de points de vue différents. Le point de vue qui me semble pertinent pour votre question, c'est la tendance de la civilisation occidentale depuis disons une paire de siècles, un peu moins de deux siècles, à confier la résolution de ces problèmes à la science et à la technologie. On est passé d'une situation où la plupart des individus ou des groupes d'individus localement géraient leur propre environnement à une société où on demande à l'extérieur, non pas à l'extérieur de l'humanité, mais à l'extérieur de la communauté locale, de résoudre les problèmes par la science et par la technologie. Je dirais que ça, c'est un modèle qui jusqu'à présent marche. La science n'a jamais échoué à ça. La science n'a jamais été aussi puissante qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de scientifiques en activité qu'il n'y en a aujourd'hui. La science a des capacités pour l'instant, il n'y a rien qui nous incite à penser que le progrès de la science va s'arrêter à court terme si on souhaite qu'elle continue. Vous parliez de problèmes écologiques, de problèmes de contrôle climatique et consorts. C'est clairement quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. On n'a même pas d'idée claire. Dans les 6 mois, dans les 10 ans qui viennent, il est clair qu'on n'aura pas de solution. Je ne suis pas pessimiste, je suis relativement pessimiste de ce point de vue-là à court terme. Je suis persuadé qu'il faut agir à court terme pour empêcher les choses de déraper trop vite. À moyen et long terme, je suis plutôt optimiste. Si on donne à la science les moyens et l'objectif de traiter ce problème-là, quelque part au cours du XXIe siècle, je pense qu'on aura développé des outils de terraformation de la Terre, en quelque sorte, de contrôle climatique, et qu'on pourra gérer ce genre de choses. Ce qui est moins sûr pour moi, c'est qu'on en ait la volonté. Un changement relativement récent, pendant tout le XXe siècle, essentiellement, on avait cette demande des citoyennes et politiques à la science, et les scientifiques se sentaient cette mission de développer des outils pour résoudre les problèmes de l'humanité, avec la réserve qu'on disait tout à l'heure, que les mêmes outils peuvent être employés comme, dans un sens comme dans l'autre, et peuvent aussi contribuer à la destruction. Mais la science, globalement, cherchait à résoudre les problèmes et y croyait. Et il y avait une véritable demande politique, et il y avait un investissement citoyen. Et des défis délirants peuvent être posés. On peut avoir John Fitzgerald Kennedy qui arrive et qui dit « dans 10 ans, on sera sur la Lune ». Personne ne sait comment on y va. Il donne mission, il crée une agence avec pour mission d'aller sur la Lune et des moyens limités, et on y va. De Gaulle a fait le même genre de choses à plusieurs reprises, a demandé à créer des grands corps avec des missions précises et qui ont été achevées. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les politiciens soient encore dans cette logique-là, et non pas parce que les politiciens ont changé, mais parce que je pense que les électeurs ne demandent plus ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que la majorité des populations des pays occidentaux attendent aujourd'hui des solutions de la science, et là il pourrait effectivement y avoir un changement civilisationnel. C'est-à-dire que si les citoyens décident que ce n'est plus à la science de résoudre leurs problèmes, les politiques ne donneront plus les moyens colossaux dont la science a besoin pour résoudre ces problèmes colossaux. Et là, on pourrait effectivement changer de modèle. Ce sera plus le modèle occidental du XXe siècle. Il faudra inventer autre chose. Mais là, pour le coup, le drame, c'est que je pense qu'on n'a pas d'alternative. On n'a pas d'autre modèle que ce modèle scientiste pour résoudre les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui.
Merci. Donc voilà deux des points de vue très, bah, très, très complémentaires finalement. Finalement, j'ai envie de dire, si la grenouille est intelligente et réfléchie, peut-être qu'elle se dotera d'une combinaison isotherme et qu'elle survivra à l'eau bouillante. Bien, écoutez, je suis vraiment désolé parce qu'il n'y a plus de temps maintenant pour vos questions. Il y a d'autres tables rondes sur les fins du monde, plus sur la science-fiction à proprement parler. Ici, c'était une exploration. Je remercie tous les intervenants et je remercie le public et bonne continuation aux Utopiales.